in un amargo sonichette che salia a martinette e a cante grande de frago. Che appaghe los faroles, romper el velo, porque lo bailéis por caracoles que viene el duelo. Llevarlo así, con una espada, entre oles portó Granada. ¡Qué vergüenza, España! Que vestiste de luto al planeta cuando mataste al poeta que nació de tus entrañas. Tanto y tanto cuidarlo, y una manada de ganado pa' matar.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous allons entendre aujourd'hui dans notre émission la voix de Michel Ragon. Michel Ragon, qui comme vous le savez, est un écrivain libertaire et pacifiste. Les 8 et 9 juin 2024, un colloque important intitulé « Michel Ragon, la littérature prolétarienne, l'anarchisme, l'architecture » s'est tenu à Paris. De nombreux intervenants ont abordé des thèmes très intéressants. À cette occasion, les animateurs du colloque, Raphaël Romney et Giuseppe Lucatelli, m'ont demandé de diffuser un entretien entre Michel Ragon et Alexandre Skirda que j'avais enregistré le 18 juin 1997 à Paris. Cet entretien devait d'ailleurs servir de base à une prochaine réalisation d'un film sur Michel Ragon. Malheureusement, le film n'a pas abouti. J'ai retrouvé l'enregistrement de cet entretien dans mes archives et je pense qu'il pourra intéresser les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem. Mais auparavant, voici ce que Françoise Ragon, femme de Michel, a dit pour introduire le colloque le 8 juin 1924 à Paris.
Bonjour, merci d'être si nombreux, amis de Michel. Michel aurait aimé se retrouver là, au milieu de ses amis, de ses copains. Et en son nom, je remercie infiniment Thierry Maricourt, qui est à l'origine de ce projet, Raphaël, à ma gauche, Raphaël Romney, qui est à l'origine de la revue Fragments, revue de littérature prolétarienne, et qui patiemment, méthodiquement, a travaillé à la logistique, à la réalisation de ce projet. Je remercie les nombreux bénévoles, Radio Libertaire, Le Monde Libertaire, j'en oublie sans doute. Michel aurait aimé, pourtant, il aurait été étonné, amusé, de se voir étudié comme un objet historique, sur toute l'œuvre de sa vie, ou peut-être sa vie qui est son œuvre. Lui qui a écrit dans un minuscule carnet que j'ai retrouvé, « Je trébuche tout de suite sur la difficile transcription du langage populaire. Comment faire passer cette langue plébéienne dont je voudrais tant restituer la mémoire? Comment ne pas parler avec la voix de son maître, des maîtres penseurs, des maîtres parleurs ?» Michel à Nantes, tout jeune, 14-15 ans, a découvert les livres des ouvriers et des paysans. Il s'est dit alors, des paysans écrivent, pourquoi pas moi? Il va donc se lancer dans la défense et surtout le témoignage des écrivains prolétariens. Livre plusieurs fois refait, peu à peu dans sa propre langue. Un bien si chèrement acquis, dira-t-il plus tard. J'ai retrouvé au dos du premier manuscrit des écrivains du peuple, 1947, un passage qui n'a pas été publié, sans doute dans une langue pas très bonne, pas encore acquise, mais révélateur de son état d'esprit. Donc il dit « Moi, qui n'ai à vous offrir qu'un acte d'amour envers les écrivains de ma race, et écrit avec la seule intention que vous, mes camarades, non initiés à la littérature du peuple, à notre littérature, puissiez trouver un guide pour vos lectures, une assurance de notre grandeur et de notre force. » C'est évidemment un peu pompeux, mais il avait 20 ans. Hein. Son langage a évolué, il a gagné sa langue, les essais, les romans en témoignent, mais témoignent aussi de sa fidélité à ses origines et à ses amis. J'aimerais partager avec vous une dernière trouvaille, faite dans le dossier de travail de la mémoire des vaincus. Dossier de recherche, je pense, sur les idiots utiles si chers à Lénine. Alors Michel écrit « Tous les écrivains ne sont pas idiots, et certains sont utiles, en tant que créateurs d'un monde littéraire, leur vraie mission. » Plus loin, « La complicité de l'écrivain avec le pouvoir, quel que soit le pouvoir, est une trahison de sa mission. » Je pense que ça reflète un peu bien Michel.
Après cette introduction du colloque sur Michel Ragon qui s'est tenu à Paris les 8 et 9 juin 2024 par Françoise Ragon, je tiens à vous préciser que tout le contenu du colloque a été enregistré par Monique et qu'il peut s'écouter sur le site de Radio Libertaire dans la rubrique « Événements spéciaux ». Et maintenant, voici le récit de Michel Ragon, enregistré le 18 juin 1997 à Paris, avec l'historien Alexandre Skirda.
Moi, j'étais d'une famille pauvre, avec une mère veuve. Mon père est mort, j'avais 8 ans. Mais j'ai vécu dans une petite ville de Vendée, Fontenay-le-Comte, une vie de petit enfant pauvre, avec d'autres enfants pauvres, et puis une petite bourgeoisie, pas très vindicative, qui fait que dans cette petite ville, au fond, on n'avait pas l'impression qu'on était pauvre. On était un enfant comme les autres. Et donc, j'ai un souvenir d'enfance heureuse, malgré le veuvage de ma mère, malgré... on vivait chez mes grands-parents, mon grand-père faisait les jardins des bourgeois de la ville. Il était bien connu dans la ville de Fontenay-le-Comte, on le voyait avec sa brouette, ses sabots et son tablier bleu. Mais tout ça se passait bien. Mais à 14 ans, il a fallu travailler, il a fallu, ma mère, chercher un emploi, et pour elle et pour moi. Et on est parti dans la grande ville de l'Ouest qui est Nantes. Et on est arrivé à Nantes dans la situation exacte des émigrés de toujours, hein, des émigrés d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville où on n'a pas d'emploi et où on n'a pas de logement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma mère est concierge et moi je suis garçon de course. Et la rupture entre une vie tranquille dans une petite ville rurale encore, qui était Fontenay-le-Comte en Vendée, et cette grande ville industrielle de Nantes a été un choc extrêmement dur. D'abord, tout d'un coup, c'est certainement là que, inconsciemment, j'ai pris conscience qu'il existait des classes et qu'il existait une lutte des classes. C'est-à-dire que je me suis trouvé, moi, petit garçon de course de 14 ans, aller porter des paquets ou des lettres chez des gens. J'arrivais en général trempé, il pleut beaucoup à Nantes, et on me fichait à la porte en me disant « il faut monter par l'escalier de service, tu vas tout salir ici ». Donc j'ai appris très tôt qu'il y avait des escaliers pour les pauvres et des escaliers pour les riches. Cette prise de conscience, c'est vrai, de la lutte des classes, je ne l'ai pas appris dans Marx, je ne l'ai pas appris dans Bakounine non plus, je l'ai appris dans ma vie quotidienne. Et puis ensuite, pendant toute mon adolescence, qui a été celle de métier manuel, débardeur, manutentionnaire, etc., travaillant avec des gens rudes, avec des patrons rudes. Donc inconsciemment, j'ai accumulé là un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration de ma vie d'enfance, qui était une vie normale au fond. Hein. Il y avait des pauvres, il y avait des riches, mais il n'y avait pas de conflit, enfin pas apparent. Et quand je suis arrivé à Paris en 1945, après la libération, eh bien, j'ai rencontré, c'est-à-dire de Nantes, où j'étais à Nantes, j'avais une correspondance déjà avec Poulaille, avec Ludovic Massé, avec Émile Guillaumin. Pourquoi ? Parce que j'avais découvert à travers Guénaud, Caliban parle, c'est comment y avoir une conscience de classe, en quelque sorte, à travers Caliban parle, c'est le peuple qui parle. Donc ce peuple qui parle, il avait derrière lui, j'ai découvert, une littérature qui était une littérature d'expression populaire. J'ai lu Rousseau très tôt, il faut dire. Hein. J'ai lu Rousseau, j'avais 14, 12 ans, 13 ans, etc. Et donc déjà, j'avais déjà un peu une formation, sans être une formation politique, en tout cas une certaine tendance déjà vers quelque chose. Et ensuite, quand j'ai trouvé à travers Guénaud la littérature prolétarienne, j'ai écrit à Poulaille, j'ai écrit aussi à Émile Guillaumin, qui était le premier paysan ayant écrit sur la vie paysanne. J'ai écrit à Ludovic Massé, ces hommes m'ont répondu d'ailleurs, j'avais une correspondance, j'avais 20 ans, et ces gens avaient 50 ans, plus pour Guillaumin, qui devait avoir plus près de 70 ans, je pense. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis allé voir celui qui était le plus visible, c'est-à-dire Poulaille, parce qu'il était chef du service de presse chez Grasset, donc il était dans un bureau. Il m'a reçu d'abord très mal en me disant « qu'est-ce que tu viens foutre à Paris ? Tu avais un métier à Nantes ?» J'avais pas de métier, mais enfin bon, j'avais du boulot en tout cas. Et puis ensuite, il y a eu des échanges très vifs, très très affectueux avec Poulaille. C'est une chose qui m'étonne encore aujourd'hui, comment cet homme qui avait 50 ans, qui était célèbre à l'époque, il était très célèbre, comment a-t-il pu se prendre d'amitié pour ce petit jeune homme qui ne connaissait pas grand-chose, l'inviter chez lui, à sa table, lui faire connaître ses enfants qui sont devenus des copains, et lui faire connaître tous ses amis. Et parmi ses amis, il y avait beaucoup de libertaires. C'est par le biais de Poulaille, qui lui-même était d'esprit libertaire et lié avec le milieu libertaire, que j'ai connu très tôt, dès 1945, 1946, des anarchistes comme Louis Lecoing, comme Armand, comme Leval, etc. Et donc cet esprit de... cette frustration, cette révolte, cette prise de conscience des classes qui m'avait été imposée par la vie que je menais adolescent à Nantes, a trouvé une explication là dans les gens que j'ai rencontrés, dans les lectures que j'ai faites très tôt, évidemment, de Bakounine, de Kropotkine, de Proudhon, etc. Mais il y a eu aussi une autre circonstance, c'est que Poulaille a été non seulement mon père spirituel, en quelque sorte, mais il m'a donné très tôt un grand frère, qui était Alain Mahé, qui publiait des livres sous le nom de Alain Sergent. Et Alain Sergent, Mahé et Sergent, a été en effet un grand frère pour moi. Et en plus, il m'a donné un grand-père. Et ce grand-père, c'était Édouard de Léance, professeur à la Sorbonne, spécialiste du mouvement ouvrier, de l'histoire du mouvement ouvrier. Et à travers Édouard de Léance, qui m'a pris en grande amitié, tellement grande amitié que mon premier mariage, il a voulu que ça se fasse chez lui. Enfin, il a fait un petit repas pour mes témoins et lui, simplement. Mais je veux dire que c'était vraiment l'affection d'un grand-père. Mais à travers de Léance, qui m'a fait connaître ses étudiants de la Sorbonne, etc., qui voulait compléter, et pas seulement compléter, mais plutôt structurer mes connaissances, effectivement, j'ai découvert une histoire du mouvement ouvrier rationnel. Oui, de la même manière que Édouard de Léance a structuré, en quelque sorte, mes connaissances historiques du mouvement ouvrier, du socialisme au XIXe siècle, etc., m'a fait prendre conscience, j'avais lu avant, mais enfin m'a fait prendre conscience d'une manière beaucoup plus magistrale de ce qu'était Proudhon, puisqu'il est aussi l'historien de Proudhon. Eh bien, en même temps, il y avait Alain Mahé, André Sergent, Alain Sergent, André Mahé, qui, lui, s'est mis à faire une histoire de l'anarchie. Et donc, de la même manière, c'était une structuration de cette histoire de l'anarchie que je connaissais mal et qui, tout d'un coup, a eu ses points de repère. Et de la même manière, il a fait plusieurs livres sur l'anarchie, dont celui-là, Les anarchistes, qui est un livre qui m'est dédié, d'ailleurs, ce qui montre l'amitié qui nous liait tous les deux. Donc, histoire de la littérature ouvrière avec de Léance, histoire de l'anarchie avec Alain Sergent, et puis... aussi fréquentation assidue de Poulaille et de ses amis écrivains prolétariens. Voilà déjà trois volets qui commencent à faire de ce petit jeune homme de 21 ans, de 22 ans que j'étais, de lui donner des bases. Des bases qui font que très tôt, d'ailleurs, je cavale et je travaille. Je travaillais bien sûr pour gagner ma vie à Paris, dans des endroits les plus différents. Mais dès que j'avais un mouvement de libre, j'allais à la Bibliothèque nationale pour essayer de finir un livre que j'avais l'ambition de faire, qui était de continuer ce qu'avait fait Poulaille avec Nouvel Âge avant la guerre. Et je voulais faire un livre qui s'appelle « Les écrivains du peuple », que j'ai publié en 1947. J'avais 23 ans, c'est mon premier livre publié, qui est un assez gros livre, qui est l'ancêtre, évidemment, de l'histoire de la littérature ouvrière, qui sera publiée en 1953, et puis finalement de l'histoire de la littérature prolétarienne, qui est maintenant chez Albin Michel et qui est, disons, pour moi, le livre définitif sur la question, enfin, définitif en ce qui me concerne.
Portera. bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera.
Aujourd'hui, dans notre émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste, nous sommes en compagnie de l'écrivain Michel Ragon. Vous écoutez Michel Ragon faire le récit de ses engagements libertaires et pacifistes dans un entretien que j'ai réalisé avec Alexandre Skirda le 18 juin 1997.
Alors, les premiers militants anarchistes que j'ai connus par Henri Poulain, c'était Louvet, Leval et Le Coin. De toute façon, Monatte et Le Coin habitaient, étaient des voisins de, d'habitation de, en banlieue de Poulaille. Donc j'avais l'occasion de les voir en allant chez Poulaille. Donc j'ai connu très tôt Monatte, un militant anarchiste, mais enfin qui était un militant politique d'extrême gauche, et Le Coin. Le Coin, je l'ai beaucoup, beaucoup fréquenté, très longtemps, pendant toute sa vie, pratiquement. J'ai collaboré à ses revues, Défense de l'Homme, Liberté. J'ai participé à ses mouvements pacifistes, et notamment aussi à sa lutte pour obtenir un statut pour les objecteurs de conscience. Le Coin était un petit homme, très petit, un peu rond d'ailleurs. D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que la plupart de ces hommes, pour moi-même qui suis de petite taille, étaient tous de petite taille. Poulaille était de petite taille, à peu près comme moi. Le Coin et Joyeux étaient également de très petite taille. Donc tous ces gens petits étaient des gens très grands finalement. Je veux dire très grands par l'esprit, très grands par l'étendue de leur connaissance, par leur volonté de militants et par l'accumulation de leur action. Voilà, c'est une chose assez amusante que ces hommes petits aient eu un rôle aussi grand dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire de libertaire et dans l'histoire tout court d'ailleurs. Le Coin, oui, je l'ai vu toujours beaucoup. J'ai vu aussi beaucoup Armand, dont on ne parlait pas tout à l'heure, qui est aussi quelqu'un que j'ai connu très tôt. J'ai même fait des conférences, qui est un bien grand mot, dans ces réunions mensuelles, dans des bistrots où se réunissaient les partisans d'Armand. Armand, lui, c'était l'anarchisme individualiste. C'était un disciple de Stirner. Stirner, grand adversaire de Marx au XIXe siècle. Et puis aussi, quelqu'un qui prônait la liberté totale, notamment la liberté amoureuse, ce qui d'ailleurs ne manque pas de sel parce que c'est quelqu'un qui était très jaloux de sa propre femme. Enfin, il fallait pas l'approcher très très vite. C'est d'ailleurs un trait qui est commun à beaucoup de doctrinaires, c'est-à-dire qu'entre la pureté de la doctrine et puis leur propre attitude dans la vie, il y a parfois des divergences. Enfin, par exemple, la plupart de ces militants anarchistes qui étaient des libertaires, foncièrement des libertaires, et qui ont fait une action libertaire ou pacifiste, par exemple Le Coin ou Leval, d'ailleurs, ont été des objecteurs de conscience, si l'on peut dire, avant que ce mot existe, dès la guerre de 1914, et emprisonnés comme tels. Ce sont des gens qui n'ont jamais, d'ailleurs, failli dans leur idée de liberté. Or, pas Leval, mais Le Coin ou Joyeux, dont je parlerai tout à l'heure, sont des gens qui avaient un tempérament un peu dictatorial, enfin je veux dire qu'ils n'aimaient pas beaucoup la contradiction et qui se sont souvent et qui n'acceptaient guère la contradiction. Oui. Eh bien, oui, Leval, Leval, je l'ai vu beaucoup. Leval est quelqu'un qui était aussi très accueillant pour moi, qui m'a accueilli chez lui avec sa compagne. Bon, c'est une période où j'avais pas beaucoup, j'avais souvent le ventre vide. Poulaille m'invitait à dîner chez lui souvent, mais Leval aussi. Et Leval a certainement joué une grosse influence sur moi, peut-être moins directement que les autres parce que je l'ai vu moins, mais parce qu'il m'a peut-être raconté plus de choses. Je veux dire que je passais des soirées chez lui et il m'a beaucoup parlé de, évidemment, de la guerre d'Espagne à laquelle il avait participé très activement. Il m'a parlé aussi beaucoup de ses voyages en URSS où il était mandaté par le par la CGT espagnole et où il avait été en opposition à Trotsky, par exemple, comme l'avait été d'ailleurs à la même époque les délégués français envoyés par l'organisation ouvrière et qui détonnaient dans le concert de soumission à l'orthodoxie bolchevique qui avait lieu en Russie. Donc Leval, fils de communard, avec une enfance assez tragique qu'il a raconté d'ailleurs dans l'enfance en croix, et quelqu'un que j'ai peut-être que j'ai moins vu, certainement moins longtemps que Joyeux, moins longtemps que Le Coin, mais qui m'a peut-être beaucoup marqué dans ses théories du socialisme libertaire. C'est peut-être finalement ou à la doctrine ou à la, aux idées de Leval que je suis le plus tributaire. Alors que, bon, le Coin, c'était aussi un petit homme. Non, Armand, c'était aussi un petit homme rond, qui était le plus âgé d'ailleurs de tous. Mais l'anarchisme, individualisme d'Armand m'a sans doute moins marqué que le pacifisme de Le Coin, auquel j'ai beaucoup participé. Et puis ensuite, en 1947, je crois, l'époque où j'ai publié mon premier livre, Les Écrivains du Peuple, Joyeux était libraire. Il avait une librairie à Montmartre qui s'appelait le Château des Brouillards et je suis allé lui porter un jour Poulaille, toujours Poulaille. Il m'a dit, bah, il faut que tu ailles à Montmartre, tu vas voir, il y a un type qui s'appelle Joyeux, c'est un copain, et tu lui portes tes Écrivains du Peuple. Donc je lui ai porté mes Écrivains du Peuple et ça a été le commencement d'une grande amitié avec Le Coin. Alors qu'il avait... Ça a été le commencement d'une grande amitié avec Joyeux qui s'est poursuivie jusqu'à la mort de Joyeux, jusqu'à sa vieillesse, et qui s'est poursuivie avec la compagne de Joyeux, Suzy Chevet, qui était un personnage assez extraordinaire aussi, animatrice des galas libertaires, qui s'est poursuivie avec les enfants, les petits, les enfants, de, avec la fille et le gendre de Joyeux, qui était un militant anarchiste espagnol, et puis les petits-enfants, Rosel, qui est d'ailleurs devenu le secrétaire de la Fédération anarchiste, et puis et les filles aussi, les petites filles. C'est une chose assez, c'est ce que je disais à Joyeux, c'est assez extraordinaire, la fin de sa vie où il était malade et où il commençait évidemment à être un peu... triste. À Montmartre, j'allais le voir parfois et je lui disais, mais tu as quand même eu une chance extraordinaire dans ta vie parce que tu as quand même eu un gendre et une fille. C'était un gendre et une fille adoptive, mais enfin c'était pareil. De toute façon, il lui vouait une affection tout à fait filiale. Et tu as une chance d'avoir eu une fille et un gendre qui sont des militants anarchistes et d'avoir trois petits-enfants qui sont aussi des militants anarchistes. Il y a une continuité quand même très rare. Car souvent les enfants sont en contradiction avec les pères. Et là, ce sont toujours des militants très actifs. Alors Joyeux, il a beaucoup compté dans ma vie. J'ai publié d'ailleurs dans mes collections chez Casterman un de ses livres, L'anarchie ou la révolte de la jeunesse, lié plutôt à 68. Et la collaboration au Monde Libertaire, la participation au groupe de Joyeux, qui était le groupe Louise Michel à Montmartre, la collaboration à la revue La Rue, Tout ça est une chose qui, évidemment, compte beaucoup dans ma vie. Alors, oui, il y avait des personnages assez étonnants, d'ailleurs. Au fond, j'ai connu tous les militants anarchistes de l'époque. Et, bon, je ne vais pas les citer tous. Alors, je cite ceux avec lesquels j'étais le plus lié. Il y avait Lacoste Dutier, par exemple, avec ses cahiers de l'Aristote. C'était pas l'aristocratie, c'était.
Artistocratie,
c'est ça. Et il y avait Charles-Auguste Bontemps. Charles-Auguste Bontemps était, lui, un très grand gaillard, très fort, et qui ressemblait un peu à un grand bourgeois, d'ailleurs, et qui avait une voix de stentor, et donc, dans toutes les réunions, tout d'un coup, il prenait la parole. Et alors, il y avait un grand discours, d'ailleurs, qui était toujours très intelligemment fait, d'ailleurs, mais avec. C'était quelqu'un qui parlait comme parlaient les grands orateurs du début du siècle, comme devait parler Jaurès, sans doute, avec Clémenceau, j'en sais rien, mais c'était quelque chose d'assez étonnant. Il y avait aussi Joyeux d'ailleurs, alors tout à fait différent, avec un côté, lui, assez prolo. C'était aussi un débatteur assez extraordinaire, Joyeux d'ailleurs, mais c'était le débatteur populaire, lui, tandis que Bontemps, c'était le débatteur, on pourrait presque dire universitaire, bien qu'il n'était pas universitaire, mais il y avait une redondance extraordinaire. Pierre-Valentin Berthier, alors lui, j'ai été très lié à Pierre-Valentin Berthier, c'était un homme qui était journaliste en province, à Issoudun, et son journal avait été absorbé par un journal communiste, et donc il avait été mis à la porte du journal. En tant que militant anarchiste de vieille date. Et un ami lui avait donné la gérance d'une librairie. Or, au même moment où il avait cette gérance de librairie, il a eu un poste de correcteur d'imprimerie. Les correcteurs d'imprimerie ont été, après la Seconde Guerre mondiale et pendant longtemps, syndicalement entre les mains des anarchistes. Et c'était d'ailleurs une ressource. Je sais que Poulaille avait pensé à ça pour moi, il m'avait envoyé à Louis Louvet et à Simone Larcher, qui étaient responsables justement du syndicat des correcteurs, mais ça n'avait pas marché, pas de poste, etc. Bon, j'ai fréquenté un peu aussi Louvet et Simone Larcher, qui étaient des gens sympathiques d'ailleurs, qui faisaient une revue, ce qu'il faut dire, etc. Donc, Berthier se trouve coincé parce que il a son poste de correcteur et puis il a une petite librairie en gérance. Donc, il m'offre d'être l'employé de la librairie qu'il avait en gérance, que j'ai tenu avec sa femme, avec sa compagne. Et c'est ainsi que je suis devenu libraire. Je suis devenu libraire d'une toute petite librairie, mais j'ai trouvé ça très agréable. Je faisais le réassort d'ailleurs tous les jours, ce qui faisait vivre d'ailleurs à peu près la librairie qui avait peu de clients, c'est-à-dire je prenais les commandes la veille de livres que l'on n'avait pas, puis le matin j'allais les chercher et je les rapportais le lendemain, les clients l'avaient. Donc j'ai trouvé ça très, très agréable. Je me suis dit, pour moi qui étais à la recherche toujours d'une situation sociale, je me suis dit, libraire c'est drôlement chouette, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut être libraire? Moi je peux pas être libraire, j'aurai jamais d'argent pour avoir un fonds de librairie. Être commis libraire c'est pas si simple, il faut aussi avoir des références, je n'en avais pas. Et il y avait un copain sur les quais de la Seine qui était bouquiniste, qui était Telet, qui était un ami de Poulaille. Et Telet m'a dit, pourquoi tu ne demanderais pas des boîtes de bouquinistes? Et c'est ainsi que j'ai demandé des boîtes de bouquinistes, que j'ai obtenues. Et j'ai été bouquiniste sur les quais de la Seine pendant 10 ans à peu près, mais pendant 7 ans d'une manière active, qu'après je les avais laissés à ma compagne qui était anglaise et qui les a tenus pendant assez longtemps et qui était assez pittoresque. Et là, il y a eu des articles d'ailleurs parce que c'était l'anglaise bouquiniste sur les quais de la Seine, c'était assez inattendu évidemment.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir.
Aujourd'hui, dans notre émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste, nous sommes en compagnie de l'écrivain Michel Ragon. Vous écoutez Michel Ragon faire le récit de ses engagements libertaires et pacifistes dans un entretien que j'ai réalisé avec Alexandre Skirda le 18 juin 1997.
Je dois dire que mon travail de bouquiniste m'a permis de me stabiliser dans la vie. Avant, je courais un peu les cachetons d'articles de journaux dans les uns et les autres. Je publiais dans des journaux syndicalistes, dans l'Émancipation paysanne, dans Monde ouvrier, etc. Et puis j'ai commencé aussi à faire des articles, mais presque uniquement sur la littérature prolétarienne, dans le journal Art, et puis peu à peu ça m'a fait venir à la critique d'art. Mais ça, c'est une longue histoire qu'on ne va pas développer ici. Et bouquiniste, je le suis resté donc longtemps, et j'ai beaucoup aimé ce travail de bouquiniste. J'ai été d'ailleurs élu très rapidement, sans avoir rien demandé, secrétaire du syndicat des bouquinistes, et puis ensuite secrétaire du prix des bouquinistes. Longtemps après, c'est-à-dire, je sais pas quoi, 30 ans après peut-être, eh bien, les bouquinistes de Paris m'ont fait la surprise de me donner le prix des bouquinistes, ce prix qu'ils avaient repris. Et donc, l'ancien bouquiniste, ancien secrétaire du syndicat des bouquinistes, a été en 1996, lauréat du prix des bouquinistes sur les quais de la Seine, avec une fête dans un bistrot qui était très agréable, où j'ai rencontré tous mes anciens, non pas beaucoup, mes anciens collègues, non ils n'étaient plus là, mes anciens collègues, Mais la surprise, c'est qu'il y avait un jeune bouquiniste qui était le petit-fils, qui est toujours bouquiniste, et qui est le petit-fils d'Henri Poulaille. Comme quoi, il y a une continuité dans mon existence. Et ce prix des bouquinistes a été décerné, ce qui est important pour moi, à un livre qui est La mémoire des vaincus. Et La mémoire des vaincus est un roman qui traverse en quelque sorte de siècles, mais qui fait l'histoire du mouvement libertaire en France. Alors, cette histoire du mouvement libertaire, je l'ai faite comment ? C'est-à-dire que cette histoire romanesque, parce que c'est un roman avec des personnages de roman, et ces personnages de roman ont été créés comment ? Eh bien, je me suis aperçu à un moment donné que j'étais dépositaire d'un tas de choses que m'avaient dit ces militants libertaires qui tous sont décédés aujourd'hui, et que toute cette mémoire allait se perdre. Et donc, pour qu'elle ne se perde pas, j'aurais pu faire une histoire, simplement, mais j'ai préféré le transmettre dans un roman pour pouvoir toucher un public beaucoup plus large, pour toucher le grand public qui pouvait découvrir par là même ce qu'était l'histoire du mouvement anarchiste dans notre siècle. Donc, les personnages dont je parle tout à l'heure, évidemment, ils se retrouvent dans ce livre. Ils se retrouvent dans ce livre, mais c'est un mélange. On m'a souvent demandé quel était La mémoire des vaincus, un personnage central qui s'appelle Fred Barthélémy. Qui est Fred Barthélémy ? J'ai reçu des masses de lettres de ce genre. Fred Barthélémy est un mélange de plusieurs personnes. Il y a un peu de Poulaille dans sa jeunesse et dans sa vieillesse. Il y a beaucoup de Leval, justement, guerre d'Espagne et rencontre avec Trotsky. Et puis il y a aussi Marcel Bodi, que je ne connaissais pas personnellement, mais dont je connaissais son livre « Boulot de Carelli », qui a été recueilli d'ailleurs par Alexandre Skirda. Et Skirda, d'ailleurs, dont j'avais lu aussi les Macno, d'ailleurs. Et Macno a une très grande place dans ce livre, évidemment. Donc, pour ce livre, il y a les souvenirs, il y a la mémoire, et puis il y a aussi une énorme documentation, bien sûr, livresque et historique et d'archives, et qui fait que cette mémoire des vaincus, qui a reçu le prix des bouquinistes, mais qui n'a pas eu qui n'a pas été reçue avec une très grande faveur par la presse parisienne, la presse de droite n'en a pas parlé parce que c'était les anards, la presse de gauche n'en a pas parlé parce que c'était les anards. Alors il reste plus grand chose s'il y a ni la presse de droite ni la presse de gauche, mais il y avait la presse de province néanmoins, qui est beaucoup moins sujette justement au politiquement correct, et qui a fait une grande promotion pour ce livre, si bien que quand même qu'il a eu un tirage assez important, qu'il est aussi dans tous les clubs de livres, et qu'il est actuellement livre de poche où justement les étudiants le découvrent et très souvent me remercient d'avoir fait ce livre qui leur fait découvrir un pan de l'histoire, tout un pan de l'histoire sociale contemporaine qu'ils ignoraient complètement, qui ne leur avait pas été apprise à l'université. J'ai encore dernièrement, encore toujours, j'ai encore une jeune fille que j'ai rencontrée dernièrement qui travaille dans une boîte d'assurance et qui m'a dit que dans sa boîte d'assurance, on se passe le mot, il y a un livre qu'il faut lire, c'est La mémoire des vaincus. Ça, c'est quand même extraordinaire. Là, et donc, j'ai eu raison de faire un roman. Si je n'avais pas fait un roman, les idées libertaires n'auraient pas été développées dans un public qui n'est pas prêt à le recevoir si ça n'avait pas été sous une forme romanesque. En 1959, j'ai publié un petit livre sur Karl Marx, qui bien sûr est tout à fait dépassé aujourd'hui et qui n'est pas réédité, mais qui à l'époque était un livre tout à fait détonnant, c'est-à-dire que c'était une lecture de Marx à travers, faite par un esprit libertaire finalement. C'était une contradiction de Marx vue à travers Bakounine, Kropotkin, et surtout Bakounine d'ailleurs. Et ce livre a beaucoup scandalisé à l'époque. Nous étions en plein marxisme, et dans les milieux universitaires notamment, on a considéré que c'était une espèce d'injure. Mais En réalité, je disais des tas de choses dans ce petit Marx, je m'en étonne moi-même aujourd'hui, qui maintenant sont devenues tout à fait normales. Les marxistes eux-mêmes emploient le même langage, la même critique de Marx, qui n'était pas très politiquement correcte dans sa vie privée, par exemple. Chose qui était absolument impossible à dire et que je disais à l'époque. Mais j'ai connu un marxiste... est devenu d'ailleurs libertaire, marxiste libertaire, qui est Daniel Guérin. Je l'ai connu très tôt, je l'ai connu aussi dans, sans doute en 1950, quelque chose comme ça. Et Daniel Guérin, qui m'intéressait dans sa lecture de la Révolution française, la Révolution des bras nus, Babeuf, etc. J'aime beaucoup Babeuf aussi. Hein. Et... m'a dit un jour cette chose qui m'a complètement stupéfait, m'a dit « Mais toi qui es vendéen, pourquoi tu ne ferais pas une lecture marxiste des guerres de Vendée ?» Ça m'a paru évidemment assez invraisemblable. Moi je connaissais les guerres de Vendée à travers Michelet, à travers Jaurès, etc. C'est-à-dire à travers un esprit républicain, et je voyais que c'était quelque chose de tout à fait passéiste, etc. Et beaucoup plus tard... après avoir consacré un livre à ma mémoire familiale, l'accent de ma mère, à travers ma mère qui avait un accent, qu'est-ce qu'il y avait derrière cet accent? Derrière cet accent, il y avait un dialecte, qui est le dialecte poitevin-saintongeais, et il y avait, que j'ai parlé pendant mon enfance d'ailleurs, que parle ma famille, c'est pas toi, il y avait... une terre particulière, qui est une terre de bocage et de marais, qui est la Vendée. Et puis il y avait une histoire singulière, avec cette révolte, cette guerre, même, c'est plus qu'une révolte, des insurgés vendéens contre la Révolution. Donc j'ai voulu y voir de plus près, et je me suis mis à dépouiller des tas d'archives. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que dans ces guerres de Vendée, dans leur premier état en tout cas, il y avait une insurrection, qui était une insurrection foncièrement paysanne, qui participait justement à une lutte des classes, de la classe des paysans, petits paysans et des ouvriers, car on a oublié très souvent que dans cette insurrection vendéenne, il y avait beaucoup d'ouvriers, c'est-à-dire les ouvriers du Choletais, les ouvriers des tissages de Cholet, et beaucoup d'artisans. Et que dans cette première insurrection, il n'y avait pas de bourgeois, il n'y avait pas d'aristocrates et il n'y avait pas de prêtres. Enfin, je crois qu'il y en avait un seulement. Cette insurrection était dirigée foncièrement contre les villes qui étaient le siège du pouvoir, et donc les paysans se pressaient sur les villes, détruisaient les archives, hein, qui étaient justement les... Et, donc ça m'a fasciné, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose, il y a une lecture libertaire des guerres de Vendée à faire. Guérin m'avait parlé d'une lecture marxiste, mais c'est une lecture aussi libertaire. Cette première insurrection, elle était libertaire. Ensuite, elle a été récupérée, et c'est là où l'histoire n'a retenu que ça. Elle a été récupérée par l'Église, elle a été récupérée par l'aristocratie, à partir du moment où ces paysans un peu désemparés, devant l'ampleur de leur révolte, ont voulu avoir des officiers, c'était leur première erreur d'ailleurs, et les officiers, les seuls officiers qui existaient à l'époque, aussi bien les officiers dans l'armée républicaine que les autres, c'était uniquement des aristocrates. Donc ils sont allés chercher des aristocrates qui ont pris leur commandement et qui ont voulu en faire une véritable armée, une armée catholique et royale, etc. C'est là où ce que l'on voit uniquement en général des guerres de Vendée, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, c'est la première phase, cette phase en quelque sorte libertaire. Et ça a été l'objet de mon livre, Les Mouchoirs Rouges de Cholet, qui a été d'ailleurs, un très grand succès, lui, de presse et aussi de lecteurs, parce que c'était une vision tout à fait nouvelle des guerres de Vendée, avec une lecture tout à fait nouvelle. Malheureusement, ça n'a pas duré. J'avais, je pense, défriché un terrain, donné une nouvelle image de la Vendée, qui correspond d'ailleurs à quelque chose de très réel, encore aujourd'hui d'ailleurs, chez de nombreux Vendéens. Mais malheureusement... disons que l'aristocratie et l'Église sont revenus et que maintenant la Vendée a repris son, pour la grande presse, pour son aspect traditionnel, quoi. Mais on continue toujours à lire les mouchoirs de Cholet quand même. Ils sont, disons, la mémoire des vaincus, parce que ce sont des vaincus aussi. Ces paysans ont été vaincus. C'est la mémoire des vaincus de la Vendée, quoi. Donc, comme quoi, parfois, une phrase peut avoir une influence. Cette phrase de Daniel Guérin m'est revenue beaucoup plus tard quand j'ai abordé le problème de l'histoire de la Vendée. Guérin, je l'ai fréquenté après, je l'ai vu assez souvent. C'était un personnage intéressant d'ailleurs, c'était un personnage singulier, plein de contradictions d'ailleurs, mais... on s'est beaucoup vu en 68, hein, parce que en 68 j'ai participé bien sûr au mouvement de 68 et on était beaucoup ensemble avec Guérin. Bon, on était dans les vieux de 68 déjà à ce moment-là.
En ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche, devant les fils dessinés, je faisais la manche. C'était les copains d'abord et les premiers transistors, Sidney Bechet, petite fleur, les bleus sur le cœur. En ce temps-là, les trottoirs, c'était manif et guitare, même que c'est toujours comme ça. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé en noir et blanc, on découvrait le rock'n'roll, Elvis Presley et les idoles, fauteuils cassés dans tous les music-halls. En ce temps-là, c'était Paris, c'était la guerre en Algérie, dans les bistrots de la banlieue nord, on n'était pas toujours d'accord, ira ou pas, d'accord ou pas d'accord. En ce temps-là de ta vie, tu rêvais d'avoir ton bac et de monter à Paris, t'inscrire à la fac. Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. C'est là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez. Le monde était à refaire, et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans, et toi t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine, et de grenade lacrymogène. Et puis, surtout, tu me prenais pour Verlaine, alors soudain ça a été nous. Comme un tonnerre, un coup de grisou, y avait plus que nous dans nos blousons, y avait plus que nous dans nos chansons, dans les discours, carrefour de l'Odéon. En ce temps-là, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans pour très longtemps. L'amour chantait sa carmagnole, en descendant rue des écoles, affiche d'une main, de l'autre le pot de colle. J'avais 20 ans, j'avais 20 ans depuis longtemps. Faire passer à la radio, c'était les vacances en deux chevaux. Et toutes les filles se prenaient pour Bardot. C'était la télé qui s'allume pour le premier pas sur la lune. En ce temps-là, c'était le rock, mais on changeait déjà d'époque, et les Beatles allaient se séparer. En ce temps-là, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans éternellement. L'amour chantait sa carmagnole, en montant la rue des écoles, t'avais ta main posée sur mon épaule.
Aujourd'hui, dans notre émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste, nous sommes en compagnie de l'écrivain Michel Ragon. Vous écoutez Michel Ragon faire le récit de ses engagements libertaires et pacifistes dans un entretien que j'ai réalisé avec Alexandre Skirda le 18 juin 1997.
Louis Lecoing est certainement quelqu'un qui reste pour moi l'image d'un exemple extraordinaire. Quelqu'un qui, toute sa vie, a tenu tête à la soldatesque, a été emprisonné une quinzaine d'années. C'est l'homme le plus emprisonné de France après Blanqui. Et qui n'a jamais cédé. Il a refusé de faire la guerre de 14. Il a fait, au moment de, en 39, un manifeste paix immédiate contre la guerre de 39-40. Il a été emprisonné pour tout cela, encore une nouvelle fois. Et puis ensuite, après la guerre, il y avait les objecteurs de conscience. Il y avait des objecteurs de conscience qui refusaient de faire le service militaire, tout simplement, et qui étaient emprisonnés jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire le service militaire. Et certains étaient emprisonnés depuis 6-7 ans, parce que chaque année, ça se renouvelait. On leur demandait de se représenter, ils se représentaient refusés, etc. Alors, il s'est acharné avec son journal Liberté, auquel j'ai collaboré d'ailleurs, et c'est un journal pacifiste, ensuite a demandé un statut pour les objecteurs de conscience. Ce statut était refusé, il faut dire qu'on était encore dans la guerre d'Algérie et l'après-guerre d'Algérie. Donc l'armée était absolument opposée à l'objection de conscience. On avait, dans les instances officielles, on ne regardait pas ça d'une manière aussi absolue que de le regarder l'armée. Il y avait une certaine bienveillance vis-à-vis de Lecoing, vis-à-vis de ce vieil homme qui avait quand même toute sa vie œuvré dans un même sens. Et on envisageait quand même que le statut des objets de conscience pourrait être possible. Alors, on essayait de calmer Lecoing dans les instances gouvernementales en lui disant « on le fera après la guerre d'Algérie, on le fera un peu plus tard, bon, etc. » Puis un jour, il a perdu patience et il dit « bon, bah, puisqu'on repousse toujours, je vais faire la grève de la faim jusqu'à ce que le statut soit accordé. » Et il s'est mis à faire la grève de la faim. Et il s'est mis à faire la grève de la faim dans une indifférence totale, il faut dire, sauf des mouvements libertaires et des mouvements pacifistes, évidemment. Mais la grande presse n'en parlait pas du tout. Et un jour, j'ai eu l'idée d'écrire à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je n'étais pas très connu, moi, à l'époque. Hein, et Jean-Jacques Servan-Schreiber, je ne le connaissais pas. Mais je lui ai écrit une lettre en lui disant « Il y a un vieil homme qui va mourir, qui fait la grève de la faim, qui va mourir pour le statut de directeur de conscience, etc. Faites quelque chose. » Et à ma grande stupéfaction, Servan-Schreiber m'a répondu en me disant « Oui, nous allons faire quelque chose ». Et ils ont fait des grands articles dans l'Express qui ont évidemment focalisé à la fois le pouvoir et l'opinion sur Lecoing. Le général de Gaulle, le chef de l'État à ce moment-là, lui-même a dit « Je ne veux pas voir mourir Monsieur Lecoing ». Donc à partir de ce moment-là, le statut des objecteurs de conscience a commencé à se faire. Sur ce plan des objecteurs, d'ailleurs, je dois dire que j'ai toujours une petite action, c'est-à-dire quand on me demande d'intervenir, pas pour un objecteur, puisque l'objecteur, maintenant, l'objection est officielle, mais il y a aussi les insoumis. Il y en a qui ne veulent pas participer, même au service civil qui est imposé, et qui est le double, d'ailleurs, du service militaire. Et donc, quand on me demande d'intervenir pour un insoumis, je le fais toujours, avec plus ou moins de succès, mais enfin, je le fais toujours. Donc là, je reste vraiment très très fidèle, et je resterai, je l'espère, toujours fidèle à l'esprit de Lecoing dans ce sens. Le pacifisme est pour moi une chose, enfin vraiment, je veux dire que c'est, le danger de l'armée étant une chose tellement permanente, on la voit tous les jours, il suffit de lire les journaux. Qu'est-ce qu'on voit en Afrique? qu'est-ce qui fait les massacres, qu'est-ce qui prend le pouvoir, qu'est-ce qui élimine le civil, c'est toujours l'armée. Qu'est-ce qui, c'est la même chose en Amérique latine pendant longtemps. Qu'est-ce qui tenait le pouvoir en Russie, c'était en fait l'armée aussi, c'est pareil. C'était les généraux. Peut-être que Staline même était prisonnier des généraux, qui étaient prisonniers l'un de l'autre. C'était quand même l'armée qui était la plus solide. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Staline est devenu généralissime, hein, à un moment donné, maréchalissime, je ne sais pas quoi. Comme ça, il coiffait l'armée, d'ailleurs. Bon. Donc, le pacifisme est pour moi quelque chose de primordial dans la propagande libertaire. Alors, en mai 68, je me suis retrouvé beaucoup avec Daniel Guérin dans des actions, notamment à l'hôtel de Massachusetts, Jean Dette. C'était pas très, pas très extraordinaire d'ailleurs comme prise de. Mais on a eu la surprise un jour de voir les drapeaux noirs qui étaient plantés à l'entrée de l'hôtel de Massa. Et là, les responsables de CD Jean de Lettres ont été absolument furieux. Ils nous ont interpellés, Daniel Guérin et moi, en disant « Vous allez enlever tout de suite ce drapeau noir ». Pas question d'enlever le drapeau noir. De toute façon, moi, je suis contre tous les drapeaux, y compris le drapeau noir. Je trouve que c'était aussi un drapeau de trop. Mais enfin, n'oublions pas que le drapeau noir est un non-drapeau. C'est un drapeau sans couleur. Mais enfin, quand même, je trouve que c'est aussi un drapeau de trop. Hein. Et voilà, c'est un petit épisode. Mais par contre, avec Guérin, on participait à des choses plus sérieuses en 68, dans les milieux intellectuels notamment. Oui, mai 68, vu maintenant 6 et 3, 9, 30 ans après, évidemment, il y a des tas de choses, tas d'actions, y compris celles que j'avais avec Guérin, qui peuvent paraître un peu dérisoires, mais il n'empêche quand même qu'il y a eu une agitation des esprits assez extraordinaire, une remise en question d'un tas de choses, et quand même un esprit libertaire, un esprit de liberté, mais qui est un esprit libertaire, qui a beaucoup influencé les esprits. L'après 68 n'a pas été comme avant 68. Mais malheureusement, il y a eu une récupération qui s'est faite très vite, une récupération politique par les groupes maoïstes, par les trotskistes, etc., mais surtout les maoïstes à l'époque, qui a complètement dévoyé pendant un temps, justement, cet esprit libertaire de 68. Mais néanmoins, il en reste quand même quelque chose. Oui, je participe. Bon, j'ai toujours participé pendant toute ma vie à plus ou moins, à des périodes beaucoup, à des périodes moins, mais j'ai collaboré à Liberté, à Défense de l'Homme, à La Rue, au Monde Libertaire. J'ai été dans les premiers collaborateurs de Radio Libertaire, quand Radio Libertaire s'est créée. C'était une chose très importante d'ailleurs pour la propagation des idées libertaires. Cette radio qui diffuse sur la région parisienne. J'ai même fait des suites d'émissions pendant un temps, personnelles, mais autrement, j'ai beaucoup collaboré à Radio Libertaire. Et puis au Monde Libertaire aussi, pris souvent des positions, etc. Je le fais moins aujourd'hui parce que il y a maintenant dans le mouvement libertaire, mais c'est périodique d'ailleurs, il y a toujours eu des périodes. Il y a eu une période justement où il y a eu une scission où Joyeux et ses amis avaient quitté le journal Le Libertaire pour fonder Le Monde Libertaire, parce que il y avait une dérive qui s'était faite au sein de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, il me semble aussi qu'il y a des dérives. Il y a le politiquement correct qui s'est installé par la voie de l'université, par la voie de l'influence américaine. Pas de la bonne influence américaine, parce que il y a un mouvement libertaire aux États-Unis qui est extrêmement important et qui est justement extrêmement ouvert à l'avenir et qui repense en quelque sorte justement la doctrine libertaire. Mais il y a un politiquement correct qui est L'étroitesse de l'esprit, l'étroitesse de l'esprit est une chose qui s'abat toujours sur les mouvements révolutionnaires. Il y a un moment où le mouvement révolutionnaire est quelque chose qui vraiment éclate, puis tout d'un coup, il y a un esprit sectaire qui s'abat et qui sclérose le mouvement. Et là, je trouve que dans certains, actuellement, jeunes militants, justement, il y a une certaine sclérose. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, mais... moi, je suis pour l'ouverture des esprits, je suis pour la curiosité insatiable. Et les militants libertaires que j'ai connus autrefois et dont je viens de parler étaient des gens qui étaient d'une curiosité insatiable et d'un esprit d'ouverture extraordinaire. Et c'est ça que je trouve... très important dans la pensée libertaire. La lecture libertaire est inhérente pratiquement à toutes mes activités écrites. Elle est bien sûr contenue dans mes livres sur la littérature prolétarienne, l'histoire de la littérature prolétarienne notamment. Elle est contenue dans la plupart de mes romans. Elle est contenue dans ma relecture des Guerres de Vendée. Et les contenus aussi, ce qui est peut-être plus rare et plus dans mon histoire de l'architecture. Bon, j'ai été un spécialiste de l'architecture moderne. J'ai été professeur pendant 13 ans à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et j'ai publié une histoire de l'architecture qui est maintenant livre de poche aux éditions du Seuil et qui donc peut toucher beaucoup plus les étudiants. Et le premier volume, notamment, de cette histoire de l'architecture, qui traite du XIXe siècle, c'est-à-dire de la naissance de la modernité, de notre modernité, eh bien, j'y montre justement comment les doctrines socialistes libertaires du début du XIXe siècle, comment Fourier, comment Considérant, comment Proudhon, ont influencé considérablement les architectes de leur temps à la recherche d'un habitat social, à la recherche d'un habitat populaire. Et mon histoire de l'architecture est certainement l'une des rares qui donne autant de place à l'architecture populaire, à l'architecture de l'habitat, etc. Et là encore, c'est certainement une retombée et une originalité ensuite, d'ailleurs, dans ma lecture de l'architecture, que cette pensée libertaire qui se trouve encore là, mais qui ne se trouve pas comme élément de propagande, elle se trouve comme élément de réflexion pour la naissance de l'urbanisme moderne, en tout cas. C'est moins dans l'architecture que dans l'urbanisme. La critique de la ville, l'idée que le pouvoir... que la ville est liée au pouvoir et que si le pouvoir dépérit, la ville dépérit en même temps, par exemple. C'est une idée qui se trouve chez beaucoup d'urbanistes, qu'on appelle d'ailleurs les désurbanistes. Malheureusement, les villes n'ont pas dépéri parce que le pouvoir n'a pas dépéri. C'était d'ailleurs une idée qui se trouvait dans la doctrine communiste primitive, dans celle de Lénine. Il pensait d'ailleurs... que le communisme allait faire dépérir les villes et que par là même le pouvoir dépérirait au moment. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Le pouvoir n'a pas dépéri et les villes russes n'ont pas dépéri. Moi, j'ai eu beaucoup d'actions sur le plan de l'architecture et internationale. J'ai été invité, par exemple, à ce titre en URSS et dans les démocraties dites populaires, qui étaient peut-être populaires, mais pas démocratiques en tout cas, comme on sait. Et c'est une chose qui m'avait souvent frappé, parce que j'avais des discussions très libres. On pouvait avoir des discussions très libres, même en Russie, à condition que ce ne soit publié dans la presse. Mais j'avais des discussions très libres avec les architectes et les urbanistes, et je leur disais, mais enfin, il y a une chose que je comprends pas. On avait toujours pensé que lorsqu'il n'y aurait plus la propriété du sol, eh bien, ce serait très simple, on pourrait faire à ce moment-là l'urbanisme que l'on veut, l'architecture que l'on veut, puisqu'on ne serait plus tributaire d'une propriété du sol. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici, en Russie, en Allemagne de l'Est, exactement la même architecture qu'en Occident. Les mêmes grands ensembles, une même architecture concentrationnaire. Comment ça se fait ? Alors, ils ne savaient pas non plus comment ça se faisait, mais ça se faisait tout simplement que le pouvoir n'ayant pas dépéri, l'architecture ne s'était pas transformée. Mes livres sur l'architecture, pas tous d'ailleurs, mais une partie de mon histoire d'architecture, ont été publiés en URSS et ont été publiés pour les étudiants. Ils ont été publiés même dans des langues comme l'arménien, par exemple. Il y a une édition en arménien soviétique, mais je me suis aperçu qu'ils étaient caviardés, c'est-à-dire qu'on y enlevait tout ce qui gênait. C'est-à-dire que là, je veux dire que les éditeurs russes, ils n'ont aucun scrupule, hein, ils ne demandent pas l'autorisation. Et par contre, quand j'étais invité en URSS, que j'ai fait des conférences aux étudiants, etc., il y avait une foule extraordinaire d'ailleurs. On m'a laissé libre de dire tout ce que je voulais. Hein. Et je me suis aperçu que je n'étais pas surveillé, même, ce qui est le plus extraordinaire, parce que, à un moment donné, des contestataires m'ont fait signe. Alors je l'ai trouvé dans des endroits, c'était assez compliqué la nuit, on m'a emmené en voiture, etc. Or, quand je suis revenu en France, j'ai fait des articles là-dessus, j'ai parlé justement de ma rencontre avec les contestataires, et là, l'ambassade de RSS a été absolument furieuse et indignée, parce qu'on m'avait laissé libre entièrement, ils ne savaient pas que j'avais rencontré les... Donc j'ai été très libre, et j'ai été très libre de dire ce que je voulais aussi, et je le disais dans mes conférences aux étudiants, sauf qu'on ne m'a pas toujours laissé rencontrer les gens que je voulais rencontrer, dans certains contestataires historiques, disons. Il n'y en avait encore pas beaucoup, parce que la plupart étaient morts, mais il en restait quelques-uns. Et là, on ne me disait pas non, mais on s'arrangeait pour que je ne les voie pas. C'est-à-dire au dernier moment, on me disait « Non, vous ne pouvez pas, vous avez un rendez-vous avec le recteur. Non, vous ne pouvez pas, vous avez rendez-vous avec tel architecte, prix Lénine, etc. » Mais à chaque fois, les étudiants me tiraient par les manches en me disant « On va vous emmener voir Melnikov, qui était le grand architecte des années 25, qui était encore vivant, là. » Mais à chaque fois, on dit « Ah non, 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 c'est pas possible, vous avez rendez-vous à tel endroit. » Comme quoi, il y a toujours manière de diriger les choses. Mais cette expérience en Russie était quand même très, très intéressante. Et cette expérience que j'avais aussi dans les autres pays de l'Est, que j'ai beaucoup fréquenté en tant qu'historien d'architecture et historien d'art, a été quelque chose de... où je pouvais en tout cas développer mes idées, voire mes idées libertaires, mais en milieu très restreint. Ça n'était pas diffusé, évidemment. Alors là, c'est moins flagrant, l'histoire de l'art. Comme je suis un historien de l'art, surtout de l'art abstrait, de l'art d'avant-garde après les années 50, il y a peu d'esprit libertaire là-dedans, sinon la liberté, de la créativité, etc. Mais néanmoins, il y a un peintre qui n'est pas abstrait, mais sur lequel j'ai beaucoup écrit, que j'ai beaucoup fréquenté, qui sans doute doit avoir une certaine influence sur moi, parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi, c'est Jean Dubuffet. Et Jean Dubuffet est quelqu'un qui était nourri de la pensée de Stirner, notamment. J'ai pu, pour les études que j'ai faites sur Dubuffet, avoir accès à sa bibliothèque après sa mort. Et j'ai trouvé là l'unique et la propriété de Stirner qui était tout cassé, tellement il avait été lu. Et puis il avait l'habitude du buffet de casser les livres pour pouvoir les lire plus, quand il était vieux, plus facilement au lit. Et donc Stirner, très important. Dubuffet était très lié aussi à Céline. Bon, Céline a dévié, mais disons qu'à l'origine, c'était aussi un esprit libertaire. Et Dubuffet a écrit d'ailleurs un ouvrage qui est un manifeste, l'un des manifestes libertaires les plus intéressants qui ait été publié après 68. Il a été publié en 68 d'ailleurs. Qui est
Asphyxiante
et culture. Qui est Asphyxiante, oui. Et il a publié un livre qui est un des manifestes certainement les plus intéressants publié après en 68, enfin donc. Qui est Asphyxiante culture. C'est un brûlot libertaire, Asphyxiante culture. Alors Henri Laborie, biologiste, écrivain biologiste, esprit curieux, vendéen, comme moi, et qui avait la particularité, comme moi, d'être vendéen et libertaire. Dans son... à l'hôpital où il poursuivait ses recherches. Il y avait dans son bureau, d'ailleurs, affiché ostensiblement des ouvrages libertaires, Kropotkin, etc. Enfin, bon. Et il est vrai que Laborie, qui était un de mes très bons amis, je lui ai dédié d'ailleurs un de mes livres, qui est « Le Marin des Sables », avait une pensée libertaire qui était liée à ses recherches biologiques, d'ailleurs, hein, ses recherches biologiques. Et les livres de Laborie, à ce titre, sont extrêmement intéressants et reconnus comme tels, d'ailleurs, dans les milieux libertaires. Alors, je dirais que Laborie fait partie, justement, de ces hommes qui ne sont pas liés à la Fédération anarchiste, qui ne sont pas adhérents à quoi que ce soit dans les organisations libertaires, mais qui me semble avoir fait beaucoup avancer la pensée libertaire. Moi, j'ai toujours pensé que l'anarchisme, ça n'avait rien à voir avec la droite, rien à voir avec la gauche, c'est tout à fait autre chose. C'est une pensée qui a son autonomie, qui a son grand véhicule, et qui est tout à fait indépendant des partis, que ces partis soient de droite ou que soient de gauche. L'anarchie, ça ne doit pas être un parti, ça doit être une pensée en dehors de tous les partis, et même contre tous les partis. Une organisation anarchiste, les organisations anarchistes, il n'y en a pas qu'une, il y a des organisations anarchistes, il y a des groupuscules, il y a des groupes, etc., sont évidemment utiles dans la mesure où ils permettent de se retrouver, de se rassembler, de publier des choses en commun. Mais il ne faut pas en être prisonnier, néanmoins, car très vite peut s'installer, justement, une discipline, une pensée un peu oblitérée. Il faut que l'anarchisme soit le plus libre possible. Ce qui n'empêche pas de se retrouver de temps en temps dans des groupes, bien sûr. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'avenir de l'anarchisme n'est pas... Je veux dire que le monde, comme il va plutôt vers une concentration extrême, va vers une concentration extrême des capitaux, va vers une dictature capitaliste internationale. Mais justement, dans cette voie étouffante et asphyxiante qui est celle de la marche du monde actuelle, la pensée libertaire n'en est que plus importante. Même si elle n'est que des grains de sable qui viennent de temps en temps se mettre dans les engrenages et les faire un peu dérailler, ce n'est pas mal. Je crois que c'est ça d'ailleurs l'importance de l'anarchie, c'est d'être toujours présent et d'être toujours... d'avoir toujours une pensée en éveil pour permettre au monde de ne pas s'ankyloser. Et avant tout, la pensée libertaire doit être anti-anesthésiante et anti-paralysante, elle doit être ouverte, ça doit être une structure perpétuellement ouverte. On a parlé autrefois, c'était les trotskistes, de révolution permanente, mais ça doit être une révolution permanente, évidemment. Ça doit être l'esprit de la révolution permanente. À partir du moment où une révolution prend le pouvoir, malheureusement, elle devient très vite elle-même oppressive. La révolution permanente, c'est autre chose, justement, c'est ne jamais accepter d'être lié au pouvoir, quel qu'il soit. Alors, évidemment, par là même, on peut dire que donc la pensée libertaire sera toujours quelque chose de fugitif, sera toujours quelque chose de... qui ne prendra pas les destinées de l'avenir en main. Peut-être. Et c'est peut-être ça sa grandeur, justement. Et et sa faculté de ne pas être tributaire du présent et d'être toujours tourné vers l'avenir. Alors, le problème, c'est que, à la différence des partis politiques, l'anarchie n'étant pas un parti politique, étant avant tout une réflexion philosophique, finalement, eh bien, cette réflexion philosophique a marqué considérablement la société contemporaine. On ne le sait pas toujours, mais les idées écologistes, par exemple, sont nées des idées libertaires. Elles étaient développées avant la guerre par les libertaires. Les idées de féminisme, la liberté, le droit à l'avortement. Les anarchistes, entre les deux guerres mondiales, combien ont été condamnés pour cela, pour une propagande néo-malthusianiste. Tout ça est une retombée de la pensée anarchiste. La retombée de la pensée anarchiste est énorme dans notre société contemporaine. On pourrait dire presque que tous les mouvements d'avant-garde, que tous les mouvements positifs qui mènent actuellement la société sont nés de la pensée libertaire. Et ça, on ne le sait pas toujours. Et la philosophie libertaire sème, elle sème des tas de choses. Et ces graines poussent un jour. Et aujourd'hui, on le voit, les mouvements féministes, la liberté de conception, l'écologie, tout ça est né de la pensée libertaire.
Vous avez entendu dans l'émission d'aujourd'hui l'écrivain libertaire et pacifiste Michel Ragon. Michel Ragon racontait sa pensée libertaire dans un récit qui a été enregistré le 18 juin 1997 avec Alexandre Skirda. Cet entretien est d'ailleurs visible dans son intégralité sur YouTube. Il vous suffit de taper tout simplement Michel Ragon, Bernard Bessa. Je vous rappelle aussi que tout le contenu du colloque sur Michel Ragon qui s'est tenu les 8 et 9 juin 2024 à Paris peut être écouté sur le site de Radio Libertaire dans la rubrique « Événements spéciaux ». Alors je remercie bien sûr Frédéric qui assure chaque semaine avec fidélité la diffusion de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire. Et nous allons terminer cette émission avec une chanson de Françoise Hardy en hommage à cette musicienne qui est décédée le 11 juin 2024. Alors à la semaine prochaine, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada.
mais aujourd'hui je voudrais juste vous dire merci. Mais plus pour elle, folies et fièvre, je vous les dois cent fois. Tous vos bandits, vos interdits, ont fait le sel de ma vie. C'est plus grand défi. Pardon si je pars en catimini. Pour hier aussi, la pièce est finie. Rendez-vous plus tard dans une autre vie, ailleurs ou ici. Pour nous aimer mieux et plus qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un sourcil.
Au rencard des horreurs, avec l'égalité qui nous pose un lapin. J'ai mis dans ma besace, accroché à mon dos, le paquet de ma vie et ce que je vous laisse. Vous en ferez le tri, ou plus tard, ou bientôt. Je l'ai voulu pour vous, emballé de tendresse. Aux vaisseaux équipés, aux cinglés vers l'avant, les voiles fournissaient des poitrines bravaches. Quoi qu'ils aient pu connaître, appris sous d'autres vents, ils s'en sont revenus vaincre à leur port d'attache. Des quartiers interdits aux villes barbelées, nous rencontrons le monde à la télévision. Comment avons-nous fait pour laisser s'envoler les ailes du bonheur que nous apprivoisions? J'ai mis dans ma besace, accroché à mon dos, le paquet de ma vie et ce que je vous laisse. Vous en ferez le tri, ou plus tard, ou bientôt. Je l'ai voulu pour vous, emballé de tendresse. L'insupportable idée de n'être que soi-même, ce reproche vécu par le regard des autres. Quand un statut nouveau aux marques du système les aide à oublier qu'ils ne sont plus des nôtres. Lorsque l'on n'entend plus ni raison ni justice, l'illuminé prétend imposer ce qu'il sait. Dites à ceux-là qui m'auraient voulu complice, il ne croyait en rien, il a toujours pensé. Je m'arrête au chemin que vous allez poursuivre. Ma route va sa vie, la vôtre va son choix. Quelque chose dedans, ce que vous allez vivre, un jour peut-être vous fera penser.
Je me suis engagé pour un amour d'une blonde. Je me suis engagé pour l'amour d'une blonde. Pas pour son anneau d'or qu'un autre l'a donné, mais c'est pour un baiser qu'elle m'a refusé. En mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. En mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Je m'en vais dans le vallon, rejoindre mon bataillon. Soldat, t'as du chagrin pour l'abandon de ta blonde.
Bonsoir, c'est Radio Libertaire, c'est Jazz Libre, vous êtes dans la meilleure des radios et avec la meilleure émission de jazz. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Alors surtout, n'ayant pas de standardiste, n'appelez pas quand je parle parce que je ne vais pas pouvoir vous répondre. Ça c'est le principe de base. Ensuite, n'oubliez pas de télécharger la souscription. Vous savez que nous avons besoin de votre soutien. Donc, vous allez sur le site radiolibertaire.net ou je ne sais plus. Enfin, vous savez, faites Radio Libertaire et vous avez la souscription. Vous donnez en fonction de vos moyens. Nous avons besoin de renouveler le matériel, de faire en sorte que les choses soient raccord. Vous avez l'agenda de l'ensemble des émissions avec les podcasts de chaque émission disponibles pendant 12 mois. Vous pouvez écouter la radio sur 89.4 FM et maintenant en DAB+, Radio Libertaire est passé à la modernité. Voilà, nous avons réussi à trouver le bouton électrique. Vous pouvez consulter ma page Facebook Il Jazz Libre sur laquelle je mets l'ensemble des informations concernant l'émission, la playlist si vous avez besoin de renseignements, vous faites dk51@sfr.fr et j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à toutes vos demandes. N'oubliez pas également qu'il y a une autre émission qui a été créée il y a maintenant 3 mois qui s'appelle GMC+, c'est-à-dire Gabriel, Maurice, Claude et les autres, en hommage au, disons, une émission dédiée aux compositeurs français et pas que, fin 19e jusqu'entre les deux guerres, et qui est le deuxième jeudi de 20h30 à 22h. Voilà, donc il y a eu déjà Saint-Saëns, Forêt, et les travaux de piano de Debussy qui ont été rediffusés la dernière fois parce qu'on avait eu un ennui technique, et veuillez nous excuser, justement, d'où la nécessité d'avoir votre soutien. Voilà, je voulais vous dire que ce soir, la réalisation est avec Laurent, comme d'habitude, qui fait coucou de la régie. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir Étienne Guéraud, pianiste, compositeur, pédagogue, professeur, qui va nous expliquer dans un instant, en se présentant tout ça. Bonsoir Étienne, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir accepté sans rechigner, sans rien du tout.
Bonsoir et bonsoir à tous, je suis content d'être là, merci de m'inviter.
Voilà, alors juste il y a une petite... j'ai fait un petit truc voilà, pour essayer de briser la glace, et puis après je te laisse te présenter, puis j'aurai une première question, la question qui tue.
D'accord.
Voilà, c'est parti.
C'est carrément incroyable, c'est monstrueux. AAB, bon, on est en mi, c'est du 12-8. C'est, vous savez, ces fameuses plagales. Sus4, mais oui, mi9 sus4, là, direct. A sol dièse, c'est pas monstrueux, ça? Dièse 5, là. Do, si, là. Non, mais c'est pas monstrueux, là. Je m'en suis pas remis, quoi. C'est sus dièse 4. Mais oui, on est sus dièse 4. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. La dièse, si on préfère. Il y en a des infos là. Mais c'est genre, mais ce truc est incroyable quoi. Ça m'émeut, je trouve ça ici. Ça me fait penser à Bill Evans. Mais c'est jazz à mort quoi. C'est 1, 2, 3, cœur. On va pas taper le cul par terre, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, il y a rien à dire. Bobby Bob. Après, il y a le soleil quoi, hein, je veux dire. Mais il y a encore plus monstrueux. Encore, on est diatonique, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas ma préférence. Oh, vu l'appoggiature. Mais c'est monstrueux, mais c'est tout con, mais ça sonne, il le fait, c'est beau, c'est tout diatonique. Là, voilà, une fois le décalage du point d'harmonisation, c'est monstrueux, il n'y a rien à dire. Et là, c'est un mètre, mais c'est monstrueux, ça sonne. Et là, il a fallu que je m'arrête, j'ai entendu un truc, une espèce, mais d'ovni. Mais je suis vraiment arrêté, c'est que ce truc-là, c'est monstrueux, un truc, mais une... j'ai adoré ce truc-là. Mais j'ai adoré, je vais dire à la française. Oh, ta face. Oh là 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 là, mais c'est monstre, mais j'adore. Mais si j'adore cette chanson, ça me prend très monstrueux. Mi mineur 11, bah, deux voix à l'unisson, bah, et ça, mais sol mineur 6-9, bah.